9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes au début de l'été 1961 et celui qui a fait de Paris une fête, qui a couru les boulevards Montparnasse, qui a pris des cafés à Saint-Germain-des-Prés, celui qui a chassé le gros gibier en Afrique, pêché dans les eaux cristallines de Cuba, des marlins qui étaient presque aussi gros que son bateau, cet homme-là se retrouve dans l'Idaho à Ketchum, bien loin de l'effervescence qui le nourrissait autrefois, il est assez isolé, Hemingway. Et pourtant, son nom continue d'évoquer l'aventure, le courage, une vie pleinement vécue. Seulement, au crépuscule de son existence, cet homme qui incarnait la vitalité n'est plus, disons-le, que l'ombre de lui-même. Dans cette maison entourée de montagnes silencieuses, il n'est plus question de faire la fête, ni de mener des conversations animées. Je sais qu'il y en a eu des conversations animées chez Hemingway, il n'y a pas encore si longtemps. Hemingway est hanté par sa propre légende, par ses démons intérieurs, et il doit faire face à des échecs qui l'ont miné, à une maladie mentale qui est en train de le ronger. Sa force physique qu'il avait si souvent définie, hein, cette espèce d'homme qui était fort comme le granit, et bien voilà, voilà que tout ça s'effrite sous le poids des accidents de la vie. Accidents répétés, il faut bien le dire. Il y a eu beaucoup de blessures et de meurtrissures. Les succès littéraires, les prix Nobel, les romans qui ont marqué le siècle, tout ça semble loin, presque inaccessible à cet homme malade, en tout cas tout à fait vieillissant. Hemingway avait vécu une vie de passion seulement à cet instant. Cet homme autrefois indomptable a l'air d'être écrasé par l'idée même de vivre encore. Et pourtant, derrière la façade, il reste cet irrépressible besoin de contrôle, un contrôle qu'il finira par reprendre d'une manière tragique un matin de juillet 1961.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Hemingway est peut-être le plus français des écrivains américains. C'est le génie de la génération perdue. Soldat, journaliste, chasseur, il a écrit ses romans en s'inspirant de ses propres exploits. Il a construit sa propre légende d'écrivain bohème. C'est l'aventurier internationaliste qui prend des notes, qui écrit, qui transcende et subsume. Sa première grande œuvre, Le soleil se lève aussi, c'était en 1926, Le soleil se lève aussi. Cette œuvre décrit la fameuse génération perdue, ces jeunes Américains complètement désillusionnés par la guerre, la grande guerre. Ils sont installés à Paris dans ces années 20 et Hemingway a rejoint tout ce petit monde. Et là, dans la capitale française, on le voit, qui fréquente Francis Scott Fitzgerald, James Joyce, Ezra Pound, suivront des classiques, L'adieu aux armes, bien sûr, inspiré par sa propre expérience sur le front italien, Pour qui sonne le glas, et là on explore cette fois la guerre civile espagnole, et puis en 1952, Le vieil homme et la mère, qui lui vaut le prix Pulitzer l'année suivante et le prix Nobel en 1954. Le vieil homme et la mère, le chef-d'œuvre d'une certaine manière. À la fin des années 30, Hemingway s'est installé à Cuba. Ce long crocodile vert aux yeux d'eau et de pierre, comme l'a surnommé le poète Nicolas Guillen. Il s'est installé dans le petit village de San Francisco de Paula, à une quinzaine de kilomètres de la Havane. Et il a acheté là une très belle maison, maison de style colonial espagnol. Elle est grande, la maison, entourée de palmiers, d'hibiscus, de manguiers. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler ici même. C'est la Finca Viria. Hemingway peut donner libre cours là à ses deux passions, la pêche au gros bien sûr, et le daiquiri, il ne faut pas l'oublier. Pour qui sonne le glas a été un très très gros succès commercial. D'ailleurs, Paramount Pictures en a acquis les droits d'adaptation cinématographique et ça a coûté très cher à la grosse société de cinéma. Chaque matin, Hemingway se lève tôt avec le soleil, boit plusieurs whisky, écrit jusqu'à midi, debout dans son bureau. Vous savez qu'il fait partie de ces écrivains qui écrivent debout. Et puis l'après-midi, il s'en va pêcher, non sans s'être arrêté à la terraza, qui est le bar de Corrimar. Le soir, il reçoit ses amis, des Cubains, pêcheurs, républicains en exil, il y en a beaucoup à Cuba, mais aussi des stars, bien entendu, Gary Cooper, Ingrid Bergman, Ava Gardner, le très grand torero Luis Miguel Dominguín ou Antonio Ordóñez également. Bref, tout ça est brillant. Glamour, si vous me passez l'expression, ce sont des années cubaines qui sont des années heureuses. Hemingway va rester dans cette propriété jusqu'en 1959 et en 59, il achète donc dans l'Idaho cette maison de Ketchum où il vient habiter avec sa quatrième femme, Mary, durant les mois de chasse, qui, ça tombe bien parce qu'à Cuba c'est la saison des ouragans avec des vents qui soufflent du nord et qui rendent l'île beaucoup moins agréable. Son départ va aussi coïncider avec l'accession au pouvoir de Fidel Castro, qu'il admire, qu'il rencontre en mai 60. S'il quitte l'île, c'est parce qu'il est malade et que le fardeau de la maladie qui se développe en lui devient de plus en plus lourd. C'est facile à calculer, il a 60 ans en 1960, Hemingway est encore bien jeune, mais c'est un homme qui est traqué par sa propre vie en quelque sorte, qui se confronte chaque jour à ses démons. Vous avez peut-être vu le très beau film de John Sturges, qui est un film de 1958 avec Spencer Tracy, The Old Man and the Sea, Le Vieil Homme et la Mer. C'est la bande originale que Dimitri Tiomkin a écrit pour ce film et qui était interprété il y a quelques années par l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de Richard Kaufman.
Vous écoutez Radio Classique.
À la fin des années 50, Ernest Hemingway commence à montrer des signes de déclin, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Il y a cette aura de héros, d'invincible aventurier, de figure de la masculinité américaine. Mais intérieurement, cet homme-là est ravagé par les cicatrices qu'a laissé une vie qui a été menée peut-être un peu trop vite, un peu trop fort, avec des excès en tout genre. Ses blessures accumulées, ses accidents, notamment les deux crashs aériens en Afrique en 1954 quand même. Tout ça a laissé des séquelles, bien sûr. Et puis, il y a cet alcoolisme qui s'est intensifié au fil des années, avec une tension émotionnelle croissante. Tout ça a affaibli l'écrivain, bien sûr. Et la dépression, qui avait toujours plus ou moins plané au-dessus de lui, devient maintenant présente, pour ne pas dire omniprésente. Hemingway va commencer peu à peu à perdre le contrôle de sa vie. Il devient paranoïaque, il est convaincu que le FBI est partout et là qui le surveille, en raison de ses liens avec Cuba, de sa proximité avec Fidel Castro. Il est avéré que l'auteur a été placé sous surveillance par le patron du FBI, par Edgar Hoover, vous savez, et ce dès 1940. Il y a au FBI un dossier concernant Hemingway qui fait 127 pages et qui a été rendu public en 1983. Tout ça est incontestable. Mais il y a chez Hemingway une véritable paranoïa qui va tourner à la spirale autodestructrice. Et plus tard, son ami et biographe Aaron Edward Hochner va révéler les conversations inquiètes qu'il avait eues à ce propos avec l'écrivain. En septembre 1960, Hemingway souffre d'hypertension, de diabète, il a un début de cirrhose et puis surtout hein, ce trouble bipolaire avec ce comportement paranoïaque qui lui fait voir des espions partout où il se déplace. Il est hospitalisé à la clinique Mayo dans le Minnesota pour recevoir un traitement par électrochoc qui doit soigner sa dépression. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse pas plus de mal que de bien. Il va rester là jusqu'en janvier 61 avant de retourner 3 mois plus tard recevoir de nouveaux électrochocs. Et le 21 juin, le docteur Howard Rome le laisse finalement quitter la clinique. Et c'est Gérard de Cortance, dans une biographie romancée d'Hemingway qui vient de paraître, là c'était le mois dernier, le livre s'appelle « Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer ». Voici ce qu'il nous dit. Howard Rome, ayant prévenu en personne Mary de son intention de laisser partir son patient, celle-ci vient chercher Ernest le 21 juin. La veille, elle avait téléphoné à George Brown, son ancien entraîneur de boxe, et lui avait demandé de les conduire en voiture jusqu'à Sun Valley. Une grosse Buick Electra 225, 6 places, rutilante, avait été louée à cet effet. Il fallait bien une telle automobile spacieuse, silencieuse, pour mettre papa en confiance. 5 jours seraient nécessaires pour couvrir les 1500 miles séparant Rochester de Ketchum. La porte de la chambre était grande ouverte. Ernest, habillé de pied en cap, sa grosse valise noire à ses pieds, se tenait debout devant son lit et lisait le journal. Sur le seuil, Mary était incapable d'entrer. Elle n'avait pas vu Ernest depuis presque un mois, mais son état physique était tel qu'une sorte d'effroi s'empara d'elle. L'homme qu'elle avait connu semblait avoir totalement disparu, et celui qu'elle voyait désormais n'était plus que l'ombre de lui-même. De Paris, le prologue de la bande originale du film de Henry King avec Errol Flynn, Le soleil se lève aussi. La bande originale en question était signée de Hugo Friedhofer, interprétée par le National Philharmonic Orchestra sous la direction de Charles Gerhardt.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Nous sommes maintenant le 30 juin 1961. Hemingway et Mary sont dans leur maison de Ketchum, avec autour les montagnes, le silence. On est loin des chaleurs vibrantes de Cuba, là. Et Hemingway va laisser passer les jours et avec eux laisser passer tous les souvenirs de sa vie. Son état se détériore encore, malgré le soutien de Mary. Dès le lendemain de son retour, Brown le conduit chez son ami le docteur Savills pour une visite médicale et le samedi soir, ils vont dîner toujours avec Brown au restaurant Christiania. Elle a bien fait, Mary, de demander à Brown d'être là pour être proche de celui que tout le monde appelle donc papa. Il rentre se coucher de bonne heure et le 2 juillet, Ernest Hemingway se réveille tôt comme à son habitude. Le ciel est encore assez sombre, c'est juste les toutes premières lueurs de l'aube. Ce matin-là, il se lève avant Mary, qui dort encore dans leur chambre. Il descend au sous-sol où sont rangées ses armes. Il prend un de ses fusils de chasse favoris, un Boss à deux coups qu'il a manié de nombreuses fois lors de ses expéditions. Et quand il remonte, tout est calme dans la maison. Et cette fois, ça y est, le soleil est là et la lumière du jour est en train de commencer à percer à travers les carreaux, à travers les fenêtres. Je cite Gérard de Cortance dans son très beau livre. « Posant la crosse du fusil sur le sol, il plaça l'extrémité du canon contre son front. Pendant quelques secondes, il crut entendre Celia Cruz chanter « La vida es un carnaval ». Puis il éprouva comme un grand bonheur, parce qu'en ce septième jour, il pouvait, comme Dieu, enfin se reposer, parce que ce septième jour, il voguait sur le Gulf Stream, dernier territoire sauvage du monde, identique à ce qu'il était avant même qu'il y eût des hommes sur des bateaux pour le parcourir. Trop là pour s'inquiéter du reste de la vie, il n'avait plus d'émotion, plus de perspective. Il avait dépassé la souffrance. S'ouvrait désormais devant lui un territoire où tout était possible. Lui qui, les derniers temps, était devenu stérile, silencieux, déprimé, sceptique quant à la valeur de son œuvre, était soudain au comble du bonheur. Suffisamment fatigué, maintenant il en était sûr, l'existence de chaque homme se termine de la même manière. Et seuls les détails de la façon dont il a vécu et dont il est mort distinguent un homme de l'autre. Il pensa, c'est toujours très silencieux quand un grand lion meurt. Alors il appuya sur la détente et c'est comme s'il prenait la mesure de l'univers. Comme son grand-père maternel qui avait tenté de se suicider alors qu'il n'avait lui-même que 6 ans, le petit Ernest. Comme son père qui était passé à l'acte à 57 ans en 1928 avec un fusil de guerre civile américaine ayant appartenu à son propre père. Hemingway va donc se tuer ce 2 juillet 1961 avec un fusil de chasse. Le grand fauve blessé s'effondre. Il avait 61 ans, il venait de publier « L'été dangereux ». Sa dernière œuvre posthume ne sortira qu'en 1964 et c'est justement cette œuvre qui s'appelle « Paris est une fête ».
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Vous imaginez le vide laissé par la disparition d'Ernest Hemingway dans le paysage littéraire mondial. L'auteur qui avait immortalisé cette fameuse génération perdue et qui, à travers ses romans, ses nouvelles, tous ses reportages, avait documenté les grands bouleversements de ce XXe siècle dont il était d'une certaine manière l'incarnation, un de ceux qui a le plus contribué à l'exportation de la littérature américaine à l'échelle mondiale. Cette figure immense n'est plus, mais derrière la figure de l'écrivain aventurier se cache un héritage littéraire et culturel qui transcende évidemment les simples récits de bravoure, de dépassement de soi, etc. Une des contributions majeures d'Hemingway à la littérature, c'est évidemment son style, cette prose concise, dépouillée, qui marque une véritable rupture avec la richesse descriptive de tous les auteurs précédents. Ce style qui a été influencé évidemment par le métier de journaliste, hein. Ce style est devenu non seulement sa signature, mais le modèle de presque tous les écrivains qui ont suivi. C'est le concept de la théorie de l'iceberg, selon lequel l'essentiel de l'histoire reste caché sous la surface. C'est une innovation stylistique qui continue aujourd'hui encore à influencer beaucoup d'écrivains contemporains, hein. Ce qui est tu dans le texte est aussi important, sinon plus, selon Hemingway, que ce qui est là, ce qui est écrit, est visible. Et ça invite le lecteur à aller chercher, deviner, ressentir, plus qu'à comprendre explicitement. C'est ça, l'immense talent d'Hemingway et la révolution qu'il a opérée. Alors il y a son style, et puis il y a cette œuvre, avec les thèmes éternels, universels, de la guerre, de l'amour, de la mort, du courage face à l'adversité, de la quête de sens dans un monde souvent absurde. Hemingway écrit sur des personnages qui sont en lutte contre leur environnement, mais aussi contre eux-mêmes, qui sont confrontés à la fragilité de l'existence. C'est cela qu'apporte Hemingway à la littérature. Et sur le plan personnel, il laisse évidemment une image plus flottante, ambivalente. Certains admirent l'homme viril sûr de lui, d'autres critiquent ses excès, son attitude arrogante, son rapport si difficile avec les femmes, son incapacité à surmonter ses propres faiblesses. Et pourtant, c'est cette complexité-là, c'est ce mélange de lumière et d'ombre, nous dit Gaspard Le Marinier, qui a préparé cette émission, c'est tout ça qui rend Hemingway fascinant. Il incarne un idéal d'écrivain qui vit ce qu'il écrit, qui transforme ses expériences en littérature, qui refuse les compromis, et malgré le silence final de cette ultime matinée à Ketchum, on peut dire de la vie et de l'œuvre d'Ernest Hemingway qu'elles n'ont rien de silencieux et qu'elles continuent de résonner encore partout dans les consciences du monde entier.
Vous écoutez Radio Classique.
L'ouvrage de Gérard de Cortance chez Albin Michel s'intitule « Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer ». Et voici Christian Morin. Bonjour Christian.
Bonjour Franck. Racontez comme vous l'avez fait, ça donne envie de lire le livre,
ouais, c'est un beau
le
livre.
Parcours de cet homme. Je vais lire une phrase qui aurait très bien pu coller avec l'état d'esprit d'Hemingway. « J'ai passé ma vie à regretter le passé et à espérer en l'avenir, n'étant jamais satisfait du présent. » C'est Tchaïkovski que vous allez nous raconter le 14 octobre à la salle Gaveau.
Est-ce que ça ne serait pas par hasard, et je parle sous le contrôle des psychologues qui doivent nous écouter aussi, est-ce que ça ne serait pas une petite définition de la névrose que vous venez de nous donner là?
En quelque sorte, peut-être, un tout petit
la
peu.
La névrose de Tchaïkovski que nous essaierons d'explorer avec ce personnage extraordinaire. C'est vrai, ça, ce sera le 14 octobre.
À la salle Gaveau, c'est un rendez-vous que vous attendez, vous les auditeurs, parce que ça marche de mieux en mieux, c'est vrai que c'est une belle idée. Et pour cette soirée, vous serez entouré de la violoniste Geneviève Laurenceau et mm-hmm. du pianiste Tanguy de Villancourt. Et entre les deux, la musique, il y aura Franck Ferrand, raconte.
On a connu pire que ces deux grands interprètes pour évoquer Tchaïkovski.
À propos d'interprètes, je vous ai entendu avec David ce matin évoquer aussi un grand personnage, c'est-à-dire Josephine Baker, et vous parliez de sa première venue à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées en 1923, et savez-vous que dans l'orchestre qui l'accompagnait, il y avait un clarinettiste qui avait été remarqué par Ernest Ansermet, grand chef suisse, qui avait fait un article en disant « il y a un clarinettiste d'une virtuosité », c'était Sidney Bechet.
Ah, je croyais que c'était Christian Morin, j'allais dire non quand même.
Non,
pas exagéré.
Pas à ce niveau. J'ai eu le prix Sidney Bechet de l'Académie du Jazz, mais pas l'interprétation de Sidney qui était un musicien hors pair, comme le disait Duke Ellington. Merci beaucoup, mon cher Franck, à demain.
Bonne journée.
Et n'oubliez pas de noter le 14 octobre à la salle Gaveau avec Franck. Franck, à 14h, vous le retrouvez également cet après-midi.